Et là, il est choisi quelques années plus tard comme évêque de la ville de Cyre, Cyr. Et il va s'y montrer très actif, pasteur, théologien, littérateur. Il va gouverner son diocèse avec, voilà, avec énergie et va s'intéresser aussi à la question sociale, disons, s'occuper des pauvres dans son diocèse. Alors c'est un écrivain très fécond, mais justement dont la majeure partie de l'œuvre a été perdue à cause de la condamnation dont il a été frappé par Cyril Victorieux, hein, à une période. Alors, justement, au début de son épiscopat, il va combattre, comme d'ailleurs Cyril d'Alexandrie, les païens et les hérétiques de sa région de Syrie. Et la situation va basculer quand, au lendemain du concile d'Éphèse, il va réfuter les 12 anathèmes que Cyril d'Alexandrie avait, comment dire, formulés contre Nestorius. Alors cette réfutation a été perdue puisque Théodoret a été condamné au concile de Constantinople II en 553. Mais on l'a retrouvé, enfin le texte lui-même a été perdu, mais il existe comme citation dans la réfutation que lui oppose Cyril. Parce que Cyril. Vous savez, comme à l'époque les livres étaient rares, quand vous réfutez quelqu'un, vous ne lui dites pas reportez-vous à la page tant de son bouquin. En fait, vous recitez tout. Parce que vous n'êtes pas sûr que vos lecteurs aient l'ouvrage incriminé. D'autant plus que vous arrangez pour que l'ouvrage incriminé disparaisse. Hein. Alors, donc il ne reste plus que le texte, souvent un petit peu trafiqué pour les besoins de la réfutation de celui que vous attaquez. Alors finalement, donc Théodoret continuera de polémiquer contre Cyril d'Alexandrie pendant plusieurs années, puis viendra la controverse causé par un moine qui s'appelle Eutychès, un moine de Constantinople, qui aboutira au concile de Chalcédoine de 451. Alors, Eutychès, qui était un moine à Alexandrie, défendait le monophysisme et même aller plus loin que la position de Cyril d'Alexandrie. Donc vous voyez, le monophysisme était plus ou moins, comment dire, resté dans la zone égyptienne. Et là, il prend pied à Constantinople à travers les moines. Donc menace véritablement l'orthodoxie. Mais le pauvre Théodoret va. Il y a eu un concile qu'on appelait le brigandage d'Éphèse, qui était organisé justement par le parti de Eutychès, où les. Qui était une opération d'intimidation où les évêques ont été molestés, frappés, certains sont même morts. Il a fallu que la police intervienne dans l'aula conciliaire. Enfin, à côté de Vatican II, c'est rien du tout. Hein. Donc, c'est pour vous dire que même aujourd'hui, ce qui se passe au Vatican, c'est rien à côté de ce qui se passait à cette époque. Alors, évidemment, ce concile, la botte de Tychès, va s'opposer, et va déposer d'ailleurs Théodoret, qui lui défendait la position de Nestorius. Alors, il sera réhabilité au concile de Chalcédoine après avoir reconnu finalement que la position de Nestorius était néanmoins insuffisante et qu'elle trouvait sa solution véritablement dans ce que le pape Léon le Grand proposera comme résolution de la crise, l'écrit qu'il enverra. Puisqu'il ne participera pas au concile de Chalcédoine proprement dit, mais il enverra un tome à Flavien, donc un document au patriarche de Constantinople de cette époque, exprimant la théologie occidentale, et c'est dans cette théologie occidentale que finalement le concile de Chalcédoine trouvera la solution à la question de l'articulation des deux natures dans le Christ. Alors, Théodoret, néanmoins, a été un père de l'Église qui mérite d'être étudié. Il a été un exégète tout à fait dans la ligne l'école d'Antioche. Donc, il a produit un grand nombre de commentaires, notamment de l'Ancien Testament. C'est curieux, d'ailleurs, comme tous les pères de l'Église ont surtout commenté l'Ancien Testament. Alors pourquoi? Parce que finalement, le nouveau, ça parle du Christ. Enfin, il n'y a pas besoin de rajouter beaucoup de commentaires à ce qu'a dit le Christ. En revanche, l'Ancien, quand même, parle d'autre chose, et apparemment d'autre chose. Et du coup, c'était assez facile d'être martionnite et puis de dire l'Ancien Testament n'a rien à voir avec le christianisme. Et donc, vous voyez, de faire comme une fusée à deux étages et on supprime le premier étage. Et en fait, les pères de l'Église ont compris que le christianisme, c'était comme la fusée de Tintin qui arrive sur la Lune. Donc, elle arrive entière avec... voilà, il n'y a pas de morceau qui est largué comme dans First Man, là, Et alors donc, ils ont essayé de sauver l'Ancien Testament, mais pour le sauver, il fallait le commenter de manière christologique, christocentrée, et notamment d'où l'usage de l'allégorie chez les Alexandrins, mais aussi, vous voyez, dans une réflexion plus étymologique, plus axée sur la langue, chez les Antiochiens. Alors, que fait-il? D'abord, il cherche à établir le texte, ce qui est quand même intéressant sur le point de vue historique, c'est de voir quelqu'un qui va essayer de se dire il y a plusieurs variantes, plusieurs traditions manuscrites, quel est le texte sur lequel le texte reçu en quelque sorte. Donc il étudie soigneusement selon le sens littéral, par exemple en comparant les différentes versions grecques. Vous souvenez que Origène avait publié son exemple, là, toutes les versions grecques en synoptique, et même en comparant avec la version syriaque de la Bible, de l'Ancien Testament, qu'on appelle la Peshitta. Alors, du coup, il va élucider des questions sur l'authenticité, la paternité littéraire, la date, l'intention de l'auteur, le genre littéraire adopté, etc. Donc, véritablement, il fait œuvre d'exégète comme on le fera au XIXe ou au XXe siècle. Donc, c'est vraiment un auteur intéressant de ce point de vue-là. Et vraiment une approche scientifique du texte. Et cette approche scientifique du texte n'empêche pas, à la différence des protestants libéraux du XIXe, d'insister sur l'unité de l'écriture, sur son inspiration divine et sur le sens christologique de l'Ancien Testament par le biais de la typologie, les différents types de l'Ancien Testament renvoyant à la figure du Christ. Il a écrit un traité contre Eutychès qui s'appelle Eranistès, le mendiant en grec. Pourquoi il le traite de mendiant? Parce qu'il dit Eutychès, toi qui es moine, donc mendiant, en fait ce que tu as mendié, c'est pas ta subsistance, mais tu as été mendié toutes les erreurs dans toutes les hérésies préexistantes. Alors c'est un dialogue en quatre livres. Vous voyez, c'est le genre de dialogue, en fait, c'est plutôt un monologue, où il va descendre en flamme les positions monophysites. Ce texte contient pas loin de 300 extraits de pas loin de 100 pères de l'Église qu'il cite comme preuve contre le monophysisme d'Eutychès. Donc là encore, c'est un véritable travail scientifique. Il a, d'autant plus qu'à l'époque, non seulement il n'y avait pas Internet, mais il n'y avait même pas non plus de bibliothèque vraiment très développé. Il avait certainement tout ce qui avait pu être trouvé à Antioche, et il a trouvé suffisamment d'éléments pour pouvoir confondre la christologie de Tychès, et en même temps nous faire connaître aussi beaucoup d'auteurs qu'on n'aurait pas connus autrement, sous la forme de fragments, comme on dit, c'est-à-dire d'extraits. Alors ce Théodoret était avait un esprit scientifique, donc un esprit pas borné, et sa pensée a évolué au fur et à mesure de ses polémiques avec ses adversaires, Cyril, Eutychès, etc. On le sait tout simplement par sa correspondance qu'on peut dater. Donc on voit comment il reprend le dossier en tenant compte des objections que les monophysites peuvent lui faire. Juste pour vous citer, parmi ses œuvres, on a un compendium des fables hérétiques. Vous voyez qu'il est son combat contre le monophysisme, c'est pas simplement une sorte de point de lubie, mais pour lui c'est une hérésie parmi d'autres, une hérésie dangereuse. Et de la même manière que vous savez, Épiphane de Salamine était un peu comme un entomologiste qui piquait ses papillons sur sa boîte, sa liste d'hérésies, là, c'est un peu comme finalement, il a fait la même chose. Notamment, il va attaquer Cyril d'Alexandrie dans un document qui s'appelle un des textes de Cyril qui s'appelait L'unité selon la nature. Vous voyez, unité selon la nature divine qui absorbe la nature humaine dans le Christ. Théodoret préfère l'union, non pas selon la nature, mais par acception de la nature humaine par la nature divine. Sauf le problème, c'est qu'il n'arrive pas à l'expliquer. Vous voyez, le problème, c'est que certains de ses pairs sentent la solution, mais ils n'ont pas les outils intellectuels, conceptuels pour l'expliquer. Nestorius avait bien senti comment dire, que les natures ne fusionnaient pas en une troisième nature, si vous voulez, qu'elles gardaient leur identité, mais il ne savait pas expliquer comment elles pouvaient tenir ensemble. Cyrille a cru pouvoir expliquer en disant que l'humanité était absorbée dans la divinité comme la goutte d'eau dans l'océan. C'est un peu une des images qui avait été utilisée. Et la goutte d'eau dans l'océan, elle disparaît. Voilà. Donc il n'arrive pas non plus à trouver l'instrument conceptuel qui permet de rendre compte de la vérité du Christ. Et là, même chose, notre Théodoret n'y arrive pas non plus. Alors vous voyez, quand on a entendu dire au siècle dernier qu'il faut revenir à l'écriture, qu'il y a eu une hellénisation du christianisme, etc. Voilà. On a bien été obligé, parce que, ayant l'intuition de la vérité de la foi, on s'est bien rendu compte que l'écriture ne fournissait pas les instruments intellectuels pour en rendre raison. Alors, il a fallu se forger les instruments intellectuels ou les trouver dans la culture voisine, grecque en l'occurrence, pour pouvoir rendre compte de la vérité de la foi. Donc, tout ce travail qui est propre à la théologie, c'est pas un travail, je dirais, facultatif, ou inutile. C'est un travail nécessaire pour sauvegarder l'intuition de la foi. Mais vous voyez, ça s'est fait beaucoup par tâtonnement. Et comme beaucoup de nos auteurs de l'époque étaient quand même pas, comment dire, des gens qui aimaient bien s'asseoir autour d'une table et puis discuter tranquillement autour d'une tasse de thé, eh bien, ça s'est fait de manière un peu polémique. Alors, donc d'après Théodoret, après l'union, donc l'incarnation, il n'y a plus qu'un seul sujet, une seule personne en un mot, mais les deux natures gardent leur spécificité. Le Verbe ne devient pas homme, mais se revêt d'une humanité. Et là-dessus, on trouve toujours une parole de l'Écriture sainte pour justifier sa position. Par exemple, c'est le passage de l'Épître aux Philippiens où il dit il prit la forme de serviteur, forma servi, morphé, doulou, tout doulou, j'imagine, en grec. Et donc, forme. Ça a un côté, vous voyez, la forme, ça a un côté extérieur, ça a un côté superficiel, hein. Et donc, du coup, on se dit, il prend une forme, un vêtement, en quelque sorte, humain. Donc, vous voyez que c'est une formulation qui est encore insuffisante, qui tient à l'équivalence entre hypostasis, hein, la manière dont la personne est perçue dans la Trinité, et prosopon, la manière dont elle apparaît dans disons, dans l'économie, hein, c'est-à-dire une fois l'incarnation réalisée. Bon, alors, on verra à la suite comment la résolution se produit. Alors, revenons à Théodoret. Alors, c'est un esprit quand même assez universel, parce que non seulement l'Écriture sainte, l'apologie contre les païens, contre les hérétiques, toute cette polémique contre Cyrille d'Alexandrie, mais aussi s'intéresse à l'histoire. Et il va continuer l'histoire de l'Église, l'histoire ecclésiastique, de Eusèbe de Césarée. Et en remplissant le petit créneau 325-428, quand même pas rien, un siècle, notamment la controverse nestorienne. Alors, vu de son point de vue, évidemment, hein, c'est l'historien qui est un peu parti aussi dans l'histoire. Alors, histoire de l'église de Eusèbe de Césarée avait été déjà continuée par Rufin d'Aquilée, vous savez, l'ennemi de, enfin, l'ex-ami de Saint Jérôme, Socrate, alors Socrate, pas le Socrate de la ciguë, mais je crois que c'est Socrate d'Athènes, et puis un certain Sozomène. Tous avaient été arrivés jusqu'à à peu près 425. Donc lui reprend à nouveau cette histoire, mais beaucoup sous l'angle de son combat, je dirais, contre le monophysisme du côté de Nestorius, en étant en même temps très opposé à la position d'Arius, qui, on pourrait dire, élimine carrément la... Pour Arius, finalement, la nature divine n'existe pas. Hein. Voilà. Alors, je ne sais pas quelle heure il est.
Il est 9h25.
Ah, bah écoutez, c'est bien. On verra Saint-Léon la fois prochaine, alors. Alors, avec Saint-Léon, on va voir la résolution de la question des deux natures. Et enfin, la théologie telle que nous la connaissons, enfin la christologie telle que nous la connaissons, mais qui va être formulée d'une manière, encore une fois, pas très agréable pour ni les monophysites, ni pour les nestoriens, et qui va aboutir donc à deux schismes. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on a un concile, on a un schisme. Parce que, alors, je ne dis pas que le dernier concile n'ait pas abouti à un schisme. Enfin, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais souvenez-vous, même Vatican I. Vatican I,
la petite église. L'église des vieux catholiques.
Alors, attends, je ne sais pas s'il y a eu de schisme. Si, ça, les protestants qui ont persévéré dans leur...